Chapitre 16. Entendant quelqu'un crier son nom, Nietzsche s'immobilisa et se retourna. Nathan approchait Anna sur les talons. Pour chaque enjambée du prophète bien plus grand qu'elle, l'ancienne dame Abbès devait en faire trois et elle n'arrivait pas vraiment à suivre le rythme de son compagnon. Les pas des deux vieillards résonnaient sur les dalles de marbre couleur cuivre du grand couloir désert. Plutôt dépouillé par rapport au reste du complexe, ce corridor traversait les quartiers réservés aux seigneurs râles, aux divers notables et fonctionnaires de haut niveau et aux morts de site. Dans cette zone, le côté fonctionnel du cadre et des équipements primait l'esthétique un peu clinquante en vigueur partout ailleurs. Vêtu de son éternelle robe grise boutonnée jusqu'au col, Anna apparaissait telle que Nietzsche la connaissait depuis sa jeunesse. Courte sur pattes et boulotte, elle ressemblait à un nuage d'orage gris, toujours sur le point de lancer des éclairs. Dès qu'elle l'avait vue, alors qu'elle commençait son noviciat au palais des prophètes, Nietzsche s'était mentalement incliné devant l'autorité qu'incarnait cette femme, et si son allégeance avait changé ensuite, elle n'avait jamais cessé de respecter l'imposante dame Abbès. Annalina Alderen était le genre de femme capable d'arracher des aveux à une novice, voire à une sœur, en la regardant simplement de travers. Les futures sœurs la craignaient, les jeunes sorciers ne l'auraient énervée pour rien au monde, et toutes ses subordonnées lui obéissaient au doigt et à l'œil. À l'époque de son apprentissage, Nietzsche avait souvent pensé que le Créateur lui-même se serait tenu à carreau en présence de la terrible dame Abbès.
« On nous a prévenu que tu venais d'arriver de la forteresse, »
dit Nathan quand Anna et lui eurent rejoint l'ancienne maîtresse de la mort. Pour son bon millénaire d'existence, Nathan portait encore très beau, partageant avec Richard la plupart des traits marquants de leur lignée, en particulier un regard perçant et hypnotique, il avait cependant les yeux bleu azur et non gris. Malgré son âge, il restait dans une forme physique impressionnante. Comme Nietzsche et tous les résidents du palais des prophètes, Nathan avait vieilli plus lentement que les gens exclus de la zone d'influence du sort temporel. Mais le foyer des Sœurs de la Lumière était désormais détruit. Pour Nietzsche, Nathan, Anna et tous les autres, l'ère de la quasi-immortalité était révolue. Littéralement rattrapés par l'âge, les anciens privilégiés étaient maintenant soumis au régime commun de la vieillesse et de la mort. Au palais, Nietzsche avait plusieurs fois rendu visite au prophète dans ses appartements, un nom élégant pour éviter de dire cellule. Ses missions de routine ne l'avaient pas plus intéressé que cela, ni inquiété, alors que certaines de ses collègues ne seraient jamais entrées seules dans l'antre du vieil homme. En captivité, le prophète arborait immuablement de longues tuniques aux couleurs ternes. Depuis sa libération, il plastronnait dans des tenues richement brodées, avec une prédilection pour les chemises à jabot qui lui conféraient une incontestable prestance. Pour une raison qui dépassait la magicienne, il portait à la hanche une superbe épée glissée dans un fourreau incrusté de pierreries. En principe, les sorciers n'avaient pas besoin d'armes, mais le prophète, unique représentant connu de sa profession arpentant encore le monde, avait toujours eu un penchant certain pour l'excentricité. Beaucoup de sœurs au palais le tenaient pour un fou furieux et avaient une peur bleue de lui. À vrai dire, Nathan n'y était pas pour grand-chose. Dès qu'elle l'apercevait, ses femmes tremblaient de terreur ou se pétrifiaient d'angoisse. Avait-elle changé d'opinion après les récents événements? Quelques-unes, peut-être, mais la majorité s'inquiétait qu'il ne soit plus enfermé derrière de puissants champs de force. Nathan était-il un vieillard inoffensif et fantasque ou l'homme le plus dangereux du monde? Nietzsche n'aurait su trancher, même si elle éprouvait pour lui une sincère sympathie, surtout depuis qu'il avait succédé à Richard, devenu le seigneur râle en titre.
« Où est Verna ?» demanda Nietzsche. « J'aurais également besoin de lui parler. »
Anna désigna le couloir d'un signe de tête.
« Elle assiste à une réunion organisée par le général Trimac. » Adi est avec elle. Comme il se fait tard, j'ai demandé à Burdine de les prévenir de ton arrivée en compagnie de Kara. Nous les retrouverons bientôt dans la salle à manger privée. »
Une très bonne idée,
approuva Nietzsche.
En attendant, intervint Nathan, quelles nouvelles nous apportes-tu?
Encore désorienté par son voyage dans la Slife, Nietzsche ne se sentait pas très à l'aise au palais du peuple. Copiant très exactement la forme d'un sortilège, le complexe amplifiait les pouvoirs du seigneur Hall et diminuait considérablement ceux des autres pratiquants de la magie. Nietzsche n'aimait pas se sentir privé de son don et impuissante. De plus, le voyage l'avait incité à penser à Richard. À la vérité, n'importe quel prétexte suffisait à lui faire évoquer son ancien prisonnier. Et pas seulement parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Dans ces conditions, la magicienne eut besoin d'un court moment pour s'éclaircir les idées et répondre à Nathan. Si improbable que ça paraisse, cet homme était désormais le seigneur Rall. Et la dame abbesse à la retraite, peut-être provisoirement pour ce qu'en savait Nietzsche, à savoir son ancienne geôlière, le suivait comme un toutou.
« Eh bien, j'ai peur que les nouvelles ne soient pas vraiment bonnes. »«
Au sujet de Richard ?»
s'enquit Anna.
« Non, nous ne savons rien de neuf sur lui. »«
Alors, de quoi veux-tu parler ?»
s'impatienta Nathan. Nietzsche prit une profonde inspiration. Après un séjour dans la Slife, respirer de l'air paraissait bizarre. Cela dit, elle ne s'habituait pas non plus à inhaler du vif argent. Pour se laisser le temps de rassembler ses idées, Nietzsche jeta un petit coup d'œil par-dessus la balustrade. Cette section du grand couloir passait au-dessus d'une myriade de corridors et de salles, des dizaines de pieds plus bas. Dans la voûte, elle aussi très distante, des fenêtres à ogives laissaient passer la lumière du jour. De cette grande galerie, on pouvait observer discrètement ce qui se passait en bas. Connaissant la mentalité des seigneurs Hall, Richard mis à part, Nietzsche imagina qu'ils venaient parfois épier leurs sujets et prendre du coup la température du peuple. En ce jour, les divers couloirs en bas grouillaient de monde. Mais tous les passants marchaient d'un pas vif, contrairement aux promeneurs qui abondaient naguère. Détail révélateur, presque tous les bancs étaient inoccupés et les gardes qui patrouillaient en permanence redoublaient de vigilance, un exploit quand on connaissait leur réputation de sérieux. En temps de guerre, dans un palais assiégé, l'inquiétude n'épargnait personne. Les idées un peu plus claires, Nietzsche se jeta enfin à l'eau.
« Vous vous souvenez de la théorie de Richard au sujet des carillons ? La souillure qui menace de faire disparaître la magie ?»
Anna eut un vague geste de la main.
« Oui, nous n'avons pas oublié, mais je doute que ce soit notre priorité. »
« Pourtant, les dégâts commencent à être importants. »
Nathan tapota l'épaule d'Anna, une façon polie de lui demander de le laisser mener la conversation.
« Où en sommes-nous »
demanda-t-il.
« Il a fallu évacuer la forteresse, au moins pour un temps. »«
Pourquoi ? Que s'est-il passé ?»«
Les défenses magiques faiblissent. Le fief du premier sorcier n'est plus inexpugnable. »«
Comment peux-tu affirmer ça ? »
intervint Anna.
La voyante 6 s'est infiltrée dans la forteresse. Les alarmes ne nous ont pas prévenus et plusieurs champs de force n'ont pas rempli leur office parce qu'ils sont désactivés. Notre ennemi s'est promené à sa guise dans le complexe.
Comme à son habitude, Anna trouva quelque chose à objecter à ce constat.
Voilà qui ne prouve rien, et surtout pas que la magie de la forteresse faiblit. Par conséquent, on me permettra de douter du bien fondé de cette histoire de carillon. Qui connaît l'étendue des pouvoirs de 6 ? Absolument personne. En conséquence, son intrusion ne démontre pas que les carillons nuisent à la magie. Dans un lieu aussi vaste et aussi compliqué que la forteresse, quelques défaillances n'ont rien d'étonnant et...
Les murs saignent,
lâcha froidement Nietzsche. Un ton sec qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Pas question de polémiquer pendant des heures sur le sujet. En outre, elle en avait assez d'être traitée comme une novice qui a peur de son ombre.
« Le phénomène est plus grave dans les entrailles de la forteresse, au cœur même de ses fondations. »
Anna et Nathan sursautèrent. Voyant que la dame abbesse voulait parler, Kara lui coupa éhontément la parole. À l'évidence, elle n'avait pas non plus envie de discutailler.
« Le sang qui suinte des murs à de nombreux endroits est du sang humain, »
annonça-t-elle. Le prophète et sa compagne tressaillirent de nouveau.
Oui, c'est une affaire à prendre au sérieux,
admit Nathan.
Où allais-tu de ce pas, Nietzsche?
Avec Kara, nous voulons sortir et voir comment avance la rampe de Jagang. J'en profiterai pour jeter un coup d'œil à l'armée de l'ordre, histoire d'évaluer son moral. Si le plan de Richard a fonctionné, les troupes d'Aran parties pour l'Ancien Monde auront bientôt coupé les lignes de communication ennemies. Et dans ce cas, Jagang aura bientôt un gros problème. Sans ravitaillement, les troupes de l'ordre ne pourront pas rester tout l'hiver à nous assiéger. Toute l'affaire deviendra une course de vitesse entre la construction de la rampe et la généralisation de la famine.
Allons voir ça de plus près,
dit Nathan en se plaçant entre Nietzsche et Kara.
En chemin, vous nous en direz plus sur l'intrusion de la voyante.
Nathan se remit en route, mais l'ancienne maîtresse de la mort ne l'imita pas.
Elle a volé la boîte d'Orden,
souffla-t-elle. Nathan fit volte-face, les yeux écarquillés de stupéfaction.
Quoi ?
Six a pris la boîte que nous détenions. Samuel, l'ancien familier de Shota, l'avait volée à Tovi et Rachel était parvenue à la récupérer. Nous pensions que cet artefact était en sécurité dans la forteresse. Une grossière erreur.
Sais-tu au moins où Six est parti avec la boîte ?
Demanda Anna.
Hélas non,
reconnut Nietzsche.
Je suis venu ici pour obtenir des renseignements sur cette voyante. Le plus infime indice pourrait nous aider à retrouver cette maudite Six. Faites un effort, je vous en prie, parce qu'il nous faut cette boîte.
Et encore, dit Kara, la situation serait pire si Nietzsche n'avait pas remis les boîtes dans le jeu avant le vol.
Cette fois, Nathan et Anna en restèrent bouche bée. Le prophète fut le premier à se ressaisir.
« Qu'as-tu dit ? »
lança-t-il.
« J'ai peur d'avoir mal entendu, alors, si tu répétais. »
« Nietzsche a remis dans le jeu les boîtes d'Orden. Vous êtes sourd ?»
L'ancienne maîtresse de la mort fut touchée par la fierté qui faisait vibrer la voix de Kara. Les morts de Sith n'avaient pas l'habitude de louer les exploits des autres.
« Es-tu devenue folle ? »
rugit Anna.
« Te proclamer la joueuse dans les moments tragiques que nous vivons, c'est... »«
Ne vous emballez pas !»
s'écria Kara.
« Elle a désigné Richard. C'est lui le joueur. »
La mort de Sith eut un petit sourire, comme si elle se réjouissait d'avoir rabattu le caquet des deux vieillards. Enfin, de quel droit tenait-il Nietzsche pour une inconsciente ? Le prophète et la dame abbesse, eux, semblaient ne pas en croire leurs oreilles. Même si c'était pour de bon un exploit, Nietzsche ne tirait aucune fierté de ce qu'elle avait fait parce qu'il s'agissait d'un acte désespéré. Debout dans ce couloir, au cœur d'un incroyable complexe, avec une conscience aiguë des problèmes qu'elle devait affronter, Nietzsche se sentit soudain plus faible et plus impuissante qu'un nourrisson. Et ce n'était pas à cause du sortilège qui la vidait de son pouvoir. L'épuisement la guettait tout simplement. Il y avait trop à faire en trop peu de temps et elle n'était qu'un être humain après tout. Pour l'accabler encore un peu plus, elle était la seule à pouvoir s'acquitter de certaines tâches. À part elle, qui pourrait enseigner à Richard les bases de la magie soustractive dont il avait besoin pour ouvrir la bonne boîte d'Orden ? La réponse, personne, ajoutait encore au poids qui reposait sur les épaules de la magicienne. Parfois, lorsqu'elle mesurait l'immensité du défi qui les attendait tous, l'ancienne maîtresse de la mort perdait tout son courage. Comment avait-elle pu être présomptueuse au point de se croire capable de faire face à une telle adversité ? Alors qu'elle était enfant, sa mère l'avait forcée à sortir distribuer du pain aux pauvres. Plus tard, le frère Narev, l'âme de la confrérie de l'ordre, l'avait culpabilisée afin de la contraindre à se sacrifier pour les nécessiteux. Quels que soient ses efforts, elle se retrouvait toujours face à des problèmes insolubles. Ses échecs répétés, loin de la détourner de sa vocation, l'avaient en quelque sorte réduite en esclavage. Selon les enseignements de l'ordre, une personne devait oublier ses petits désirs mesquins et se consacrer entièrement aux autres. Plus ils étaient faibles, plus il convenait de les considérer comme ses maîtres, et sans se demander surtout pourquoi ils ne tentaient jamais de prendre en main leur propre destin. Lors de ces moments de découragement, Nietzsche retrouvait le vieil accablement qui la poursuivait sans cesse, lorsqu'elle œuvrait pour l'ordre, puis pour le gardien. Parviendrait-elle un jour à se débarrasser du manteau que Jagang avait posé sur ses épaules le jour où il l'avait surnommée « la reine esclave » Savait-il à quel point ce titre correspondait à la réalité? Son combat actuel, par exemple. Bien sûr, elle luttait pour une juste cause désormais, mais avec quelle chance de victoire face à une telle horde d'adversaires? Les situations désespérées lui avaient déjà coûté sa jeunesse et la plus grande partie de sa vie, et voilà que ça recommençait. Parfois, quand elle regardait la vérité en face, Nietzsche aspirait à baisser les bras et à abandonner. Lors de conversations intimes, Richard lui avait confié qu'il éprouvait les mêmes doutes et rêvait lui aussi très souvent de tout laisser tomber. Pourtant, il n'avait jamais renoncé. Dès que sa détermination chancelait, Nietzsche pensait à son indestructible amie. Peut-être simplement pour qu'il soit fier d'elle, la magicienne recouvrait immanquablement le courage de ramasser son fardeau et de reprendre son chemin. Croire à une cause et se battre pour elle était son credo, certes, mais dans le cas présent, tout passait par Richard. Sans lui, tout était perdu. Et il manquait à l'appel, coincé, elle ne savait pas où. S'il était encore en vie. Envisager le contraire étant impensable, Nietzsche revint au présent et à sa conversation avec les deux vieillards.
« Si je comprends bien, » souffla Anna, « tu as remis les boîtes dans le jeu au nom de Richard, qui est désormais le joueur ?»
Nietzsche soupira d'accablement. Allait-elle devoir annonner les arguments qu'elle avait exposés à Z ? Fallait-il répéter à l'infini les mêmes polémiques stériles ?
C'est ça, et je n'avais pas le choix. Au début, Z a réagi comme vous, mais après avoir écouté mes explications et s'être un peu calmé, vous le connaissez, il a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre solution.
Qui es-tu pour prendre de telles décisions ?
Demanda Anna, glaciale. Nietzsche décida de ne pas relever l'insulte. Si elle parvenait à rester courtoise, les choses seraient sans doute un peu plus faciles.
Vous le dites sans arrêt. Seul Richard peut nous conduire à la bataille. Avec Nathan, vous avez attendu sa naissance pendant 5 siècles, puis œuvré dans l'ombre pour qu'il accomplisse son destin. Qui s'est assuré qu'il ait entre les mains le grimoire des ombres recensées? Vous deux, et personne d'autre. En d'autres termes, vous avez pris beaucoup de décisions à sa place avant mon arrivée. Les sœurs de l'obscurité ont également remis les boîtes dans le jeu. Vous voulez un dessin pour vous expliquer leurs intentions? J'imagine que non. La bataille finale est imminente, et Richard doit être à notre tête. Pour vaincre, il lui faudra toutes les armes disponibles. Vous lui avez fourni un livre pour l'essentiel. Moi, je lui offre le pouvoir dont il a besoin pour triompher.
Nathan posa une main sur l'épaule d'Anna.
« Femme, fit-il, notre jeune ami ne dit pas que des bêtises, loin de là. »
Anna regarda le prophète et se radoucit aussitôt. Au palais, par le passé, Nietzsche aurait écarquillé les yeux devant ce spectacle. Nathan, le prophète fou, ramenant à la raison la dame abbesse en personne. Mais ici, tout était différent.
« Bon. » « Ce qui est fait de toute façon, »
déclara Anna.
« Mieux vaut réfléchir à ce qu'il nous reste à accomplir. »« Et Z ?»
demanda Nathan.
« A-t-il un plan pour aider Richard ?»
Nietzsche se concentra pour ne pas révéler à quel point elle était inquiète.
« Le premier sorcier pense que des sortilèges dessinés dans les grottes de Tamarang sont responsables des ennuis de Richard. » Désormais coupé de son don. Tom, Rika et Zed lui-même sont en route pour Tamarang, et ils espèrent neutraliser les sortilèges en question.
« À t'entendre, » dit Nathan, « c'est une formalité, mais je ne partage pas ton optimisme. »
« Attendre les bras ballants vous paraît une meilleure solution ?»
Nathan encaissa le coup avec grâce.
« Bien vu, mon enfant. Si tu nous en racontais plus long sur la forteresse... »
Avant de partir pour Tamarang, un peu après que Kara et moi avons emprunté la Slif, Z a lancé un sortilège qui scelle le complexe.
Et les autres? Chase, Rachel, Jebra?
Jebra s'est volatilisé il y a quelque temps. Selon Z, elle a repris conscience, repensé à tout ce qu'elle avait subi et décidé d'aller voir ailleurs si nous y étions.
Et si elle avait de nouveau agi sous l'influence de la voyante ?
Avança Nathan.
C'est possible, mais nous n'en savons rien. Rachel a disparu la veille de l'intrusion de Six. Bien entendu, Chase s'est lancé à sa recherche.
Nathan secoua la tête de rage.
Je déteste être coincé ici alors qu'il se passe tant de choses.
Zed tenait à ce que vous sachiez pour les défaillances magiques. D'après lui, certaines défenses du palais du peuple sont identiques à celles de la forteresse. Personne ne peut dire comment la souillure des carillons se répandra si elle frappe partout, et nous ignorons si elle affectera systématiquement les mêmes formes de pouvoir. Mais un prophète averti en vaut deux, paraît-il.
Quand nous en aurons terminé ici,
intervint Kara,
Nietzsche et moi voyagerons encore dans la Slive pour gagner Tamarang. Et dès que le Seigneur Hall aura recouvré sa magie, nous partirons à sa recherche.
Nathan ne jugea pas utile de rappeler qu'il était jusqu'à nouvel ordre le Seigneur Hall en titre. Mieux que personne, il savait que les prophéties saluaient en Richard le véritable chef du combat pour la liberté. Après tout, n'était-ce pas lui qui, le premier, avait interprété les textes concernant le sourcier encore à naître ? Le plan de Kara, partir à la recherche de Richard, était une nouveauté pour Nietzsche. Cela dit, sachant où il était, elle n'aurait sûrement pas perdu son temps en Dara ou à Tamarang. Tandis que la magicienne répondait vaillamment à un déluge de questions signées Anna, le prophète guida le petit groupe jusqu'à un couloir étroit qui s'apparentait plutôt à un tunnel. Au bout, il ouvrit une lourde porte de chêne. Aussitôt, un vent glacial s'engouffra dans le passage. Nietzsche franchit la porte. Sous un ciel rouge sang, elle se retrouva dehors, sur une étroite plateforme d'observation perchée au-dessus des remparts du mur d'enceinte extérieur.
« Par les esprits du bien !»
murmura la magicienne.
« Chaque fois que je revois ces bouchers, le choc est terrible. »
Nathan se pressa à côté de l'ancienne maîtresse de la mort. La plateforme étant très petite, Kara et Anna devraient se contenter de ce qu'on voyait à partir du couloir. La pique était vertigineuse. Saisissant la rambarde, Nietzsche se pencha un peu pour mieux sonder les plaines d'Azrit qui s'étendaient à ses pieds. L'armée de l'ordre avait établi son camp à quelque distance du pied du haut plateau. Une saine précaution quand l'ennemi disposait de pratiquants de la magie à l'imagination fertile. Même s'il avait avec lui des sœurs et de jeunes sorciers capables d'ériger des protections en cas d'agression magique, l'empereur n'avait certainement aucune intention de les exposer et de les épuiser avant l'assaut décisif. Le camp de l'ordre s'étendait à perte de vue dans les plaines stériles d'Azrit. Devant ce spectacle, Nietzsche eut des frissons glacés. Même si elle ne voyait aucun détail de si loin, elle connaissait parfaitement bien les Soudards, leurs officiers et, hélas, leur chef suprême. Dire qu'elle avait vécu parmi ces hommes. Mais à l'époque, alors qu'elle partageait la vision du monde de l'ordre, elle ne s'était pas inquiétée de la crasse physique et morale qui régnait en maîtresse sous chaque tente. La reine esclave ne devait pas voir les choses de ce genre, voilà tout. Puisqu'elle croyait sincèrement que des brutes comme Jagang et ses bouchers œuvraient pour le bien de l'humanité, il lui fallait fermer les yeux sur les détails un peu douteux. La brutalité au service de l'altruisme. Aujourd'hui, Nietzsche ne comprenait plus comment elle avait pu ne pas tiquer devant une contradiction si flagrante. Bien au contraire, elle avait prêché plus souvent qu'à son tour des énormités au moins égales à celle-ci. Grâce à son efficacité légendaire et à son zèle sans faille, elle avait fini par se gagner le surnom de « maîtresse de la mort ». Un de ses plus grands exploits restait d'avoir capturé Richard. Combien de serments lui avait-elle tenu afin qu'il rejoigne l'ordre de son plein gré ? Inébranlable, il n'avait jamais cédé un pouce de terrain, forçant au bout du compte le respect et l'admiration de sa geôlière. Qu'un tel homme manque à Nietzsche n'avait rien d'étonnant. Dans les plaines, des centaines de milliers d'hommes, probablement plutôt 1 ou 2 millions, s'agitaient comme des fourmis. Ces fanatiques venaient raser l'ultime bastion du monde libre. Le palais étant le dernier obstacle à la propagation universelle de leur philosophie, ils étaient résolus à n'en laisser que des ruines fumantes. Beaucoup plus grande que lors de la précédente visite de Nietzsche, la rampe géante symbolisait cette volonté de pouvoir et de domination. Afin d'en terminer le plus vite possible avec le siège, les Soudards travaillaient jour et nuit sur le chantier. Nietzsche n'aurait pas cru possible qu'un projet si fou et si démesuré soit réalisable. En ayant l'épreuve devant les yeux, elle dut reconnaître intérieurement que le zèle des Soudards l'impressionnait. Au rythme où ils avançaient, l'attaque ne tarderait plus trop. Sur cette plateforme battue par le vent, tandis qu'elle se réchauffait en se massant les épaules, Nietzsche songea à la horde sauvage qu'elle voyait grouiller devant elle. Ce n'était pas seulement une armée d'invasion, comprit-elle, mais la représentation symbolique des siècles d'obscurantisme qui guettaient l'humanité. Élevée dans les croyances de l'ordre, puis devenue une sœur de l'obscurité, Nietzsche savait mieux que personne que la menace devait être prise au sérieux. Les élateurs de l'ordre ne connaissaient pas le doute, car ils tenaient leur foi pour infaillible. Prêts à vivre pour servir leur cause, ils étaient surtout disposés à mourir pour elle. Un paradoxe ? En aucun cas. Pour ces hommes, la mort n'était pas un horrible drame, mais le premier pas en direction de la gloire éternelle. À leurs yeux, cette existence n'était rien d'autre qu'une épreuve, préparant les fidèles du Créateur à le rejoindre dans la béatitude de l'après-vie. Fallait-il châtier les récalcitrants ? Ils en étaient persuadés et n'hésitaient jamais à mettre la main à la pâte. Et tant pis s'il fallait faire couler un fleuve de sang avant d'atteindre le stade ultime du bonheur dans la lumière du Créateur. L'armée de l'ordre était dangereuse pour l'humanité. Mais les idées qu'elle défendait et propageait se révélaient 10 fois plus menaçantes pour l'avenir des hommes et des femmes libres.
« Nietzsche !» souffla Nathan. « Il faut que je te dise quelque chose. »
« Je vous écoute, Seigneur Hall. »
« Nous avons découvert des recueils de prophéties dans les bibliothèques de ce palais. Comme pour les autres ouvrages, le sort d'oubli a fait disparaître tout ce qui était lié directement ou indirectement à Callan. Mais la chaîne de flammes nous a quand même laissé des informations très utiles. Certains de ces ouvrages m'étaient inconnus, et leur lecture m'a permis de reconstituer le puzzle. Ou si tu préfères, d'avoir une vision beaucoup plus large et plus précise de notre monde.
Le sort d'oubli ayant dévasté leur mémoire, Nietzsche doutait que Nathan sache vraiment de quoi il parlait. Que pouvait être une vision beaucoup plus large et plus précise lorsqu'on avait oublié tant de choses ? Pour ne pas gâcher l'humeur du prophète, la magicienne préféra garder ses sombres pensées pour elle. Nathan contempla un long moment le camp ennemi et la rampe qui semblait déferler sur le haut plateau comme une vague minérale.
« Dans les prophéties, un certain moment de l'histoire du monde conduit inexorablement à une fourche bien déterminée. Au bout des 2 branches s'étend ce que les prédictions appellent parfois « le grand vide. »
J'en ai entendu parler, dit Nietzsche. Savez-vous enfin de quoi il s'agit exactement?
L'autre branche donne naissance à une arborescence des plus normales. Quelques recueils et une poignée de grimoires traitent de ces potentialités-là. En cherchant bien, je suis sûr qu'on trouverait d'autres textes sur le sujet. Bref, cette branche mène à une version du monde tel que nous le connaissons, avec sa diversité et ses contradictions. L'autre branche ne conduit nulle part. Un trou noir, rien de plus. Pas une seule prophétie n'évoque cette virtualité-là. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand vide. Que peut-on prédire sur le néant, la non-existence et les non-événements ?
Nathan eut un profond soupir.
C'est le monde dont rêve l'ordre impérial. Un lieu d'où sera bannie la magie et par conséquent toute possibilité de prédire l'avenir. C'est du moins ce que croit Jagang, mais plus probablement, le grand vide signifiera simplement la disparition de l'humanité.
Nietzsche ne fut pas particulièrement surprise. Si l'ordre l'emportait, les ténèbres régneraient sur l'univers et elle le savait depuis que Richard lui avait ouvert les yeux.
Grâce aux ouvrages que j'ai consultés et à la façon dont se sont enchaînés les événements récents, j'ai pu définir précisément la chronologie de cette fourche décisive.
Vraiment?
Sans l'ombre d'un doute. L'arrivée des hordes de Jagang devant le palais est un des nombreux signes qui ne peuvent pas tromper. Nous nous sommes engagés sur le chemin qui mène à cette fourche, Nietzsche. Et il n'y a plus moyen de rebrousser chemin. Le grand vide n'est pas une nouveauté pour moi, sais-tu. Voilà des siècles que je l'ai découvert dans les prophéties, mais ça ne m'inquiétait pas tant que je manquais de repères chronologiques. Après tout, ce qui se passera dans 100 000 ans est hors de notre portée. De plus, nous aurions pu ne jamais avancer sur ce maudit chemin. En matière de prédiction, tu le sais aussi bien que moi, il y a énormément de pertes. Les fausses prophéties sont légion et ne font finalement de mal à personne. Au début de mes recherches, il y a des centaines d'années de ça, j'ai cru que le grand vide serait une des multiples branches mortes que supporte le grand arbre des prophéties. Mais le piège s'est lentement refermé, nous poussant sur une seule et unique voie. Désormais, j'en suis sûr. Nous nous trouvons face à cette fourche déterminante et pour une moitié mortelle. Nietzsche, en remettant les boîtes d'Orden dans le jeu au nom de Richard, tu nous as définitivement condamnés à aller jusqu'au bout. À partir de maintenant, l'humanité n'a plus aucune possibilité d'échapper à cette fourche.